Alors, est-ce qu'on a déjà pensé à la manière par laquelle le Seigneur va nous accueillir quand on va arriver dans le ciel? Alors, j'aimerais qu'on voit d'abord un texte. On va lire une partie du texte. Donc, c'est Luc 19, 16 à 26. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit: C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent: Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc là, dans ce texte, on voit deux personnes, deux serviteurs, l'un qui se soucie de ce que le Seigneur lui a confié et qui veut le faire fructifier, et puis l'autre qui ne s'en soucie pas. Voilà, il le met dans un linge, il le met en dessous. L'un est accueilli par ses paroles: c'est bien, bon, fidèle serviteur. Et puis l'autre il est dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Maintenant, prenez un autre texte, 1 Corinthiens 3, 11 à 15. Il est dit: Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et là, de nouveau, on voit deux serviteurs, l'un qui fonde sa vie, qui la fait reposer sur Jésus-Christ. Donc, il vit en obéissant à Jésus-Christ, il veut faire les œuvres que Christ a préparées pour lui et il les fait de tout son cœur. Donc il obéit au Seigneur. Et puis l'autre bâtit sa vie sur lui-même. Au lieu de vouloir faire la volonté de Dieu en toutes choses, il fait sa propre volonté. Il fait ce qu'il pense bon, ce qu'il juge. Même pour faire les œuvres du Seigneur, au lieu de faire les œuvres vraiment du Seigneur, il fait des œuvres chrétiennes, mais dans sa propre chair en fait, hein, pour plaire lui-même au Seigneur. Et là, eh bien, il est récompensé, il passe au travers du feu, et eh bien, il va être récompensé parce qu'il va lui rester tout ce qu'il a fondé sur le Seigneur, tout ce qui repose sur le bon fondement. Et puis l'autre, tout va être consumé, brûlé. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, il traverse, mais il n'a plus de récompense, pas de récompense. Alors, comment on sera accueilli au ciel? Et j'aimerais qu'on prenne un autre exemple, un autre accueil possible, c'est Actes 7, 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Et là, on a un autre exemple. Donc, on voit Étienne qui voit la gloire de Dieu et voit Jésus debout à la droite de Dieu. Et Jésus s'est levé pour l'accueillir. C'est quand même incroyable ça, hein? On se dit, comment ça, le Fils de Dieu qui se lève pour accueillir un homme? Le Seigneur, il aurait pu tout simplement lui dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais non, il se lève carrément pour l'accueillir. Et puis, il veut qu'on le sache, hein. Il nous le montre. Étienne a vraiment été agréé de Dieu et j'aimerais qu'on voit pourquoi ce matin, pourquoi il était si bien accueilli. En tout cas, ce que la parole nous dit et qui ressort des Écritures. La première chose qui semble évidente, c'est que c'était un martyr. Hein, ça, c'est évident, ça nous saute aux yeux. Il est mort pour Jésus-Christ. Il a vraiment accepté en fait, de souffrir pour sa foi en Christ. Il n'a pas eu honte de Jésus-Christ. Hein. Et Jésus a dit, « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi devant lui, pardon, pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est clair que si... on prend position pour Jésus-Christ devant les hommes, eh bien Dieu, voilà, il dit qu'il nous honorera aussi parce qu'on le fait. Si on ose dire qu'on appartient à Jésus, même si ça peut entraîner parfois eh bien, des attitudes hostiles à notre égard, eh bien le Seigneur aura aussi, nous rendra aussi honneur. Et Étienne n'a pas eu honte, il n'a pas caché sa foi, son zèle pour le Seigneur. Et c'est quelque chose de louable, hein, et il faut le prendre en exemple. Mais cette raison-là, peut-être, ne suffit pas à ce que le Fils de Dieu se lève pour Étienne. Pourquoi un si grand accueil? Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres raisons, et j'aimerais qu'on voit ensemble ces raisons dans les Écritures. Donc la première, elle se trouve au verset 55, donc de Acte 7, 55, il est dit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit ». Et ça, c'est une première raison, c'est qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il avait l'habitude d'être rempli du Saint-Esprit. Il vivait par l'Esprit de Dieu, il était dépendant de lui et il laissait toute la place dans son cœur au Saint-Esprit. On peut lire le témoignage qu'il avait parmi l'Assemblée. Regardez Actes 6, 2 à 5, donc un petit peu avant. Actes 6, 2 à 5. Les 12 convainquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. » Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et là, si cet homme a été choisi pour devenir un serviteur, un diacre finalement, c'était parce qu'il était rempli, plein d'Esprit Saint. Étienne était un chrétien, je dirais, normal quand on regarde les apôtres qui étaient là. Mais simplement, il était fidèle au Seigneur, il était obéissant au Seigneur, il voulait marcher avec le Seigneur. Ce qui fait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une seconde expérience qui vient dans la vie chrétienne, mais c'est la vie chrétienne que Dieu veut que nous ayons, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il veut que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Et il suffit d'avoir cru au Seigneur Jésus, de lui avoir donné son cœur, et puis de dire « Seigneur, je veux marcher pour toi, vivre pour toi, et vivre en communion avec le Seigneur, pour qu'à ce moment-là, il nous remplisse du Saint-Esprit. » Et dès qu'on commence à vivre pour le Seigneur, soit, eh bien, on lui abandonne tout, on veut vivre pour lui, on veut lui obéir. Et dans ce cas, eh bien, il peut nous remplir hein, comme un vase, hein, comme un verre qu'on remplit d'eau et qui peut déborder. Il y a le sens ici, hein, dans l'idée d'être rempli. Quand il dit « soyez rempli de l'Esprit », c'est « soyez continuellement rempli de l'Esprit ». Donc, ça déborde et ça déborde et ça déborde encore. Hein. Ou bien, on peut faire le choix de ne pas vouloir vraiment vivre pour le Seigneur, de vivoter pour le Seigneur, et dans ce cas, le Seigneur ne peut pas nous remplir. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun, nous remplir du Saint-Esprit. Et c'est intéressant parce qu'il dit « soyez remplis de l'Esprit ». Et en fait, être rempli de l'Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une action passive. On se laisse remplir. Il n'est pas dit « remplissez-vous de l'Esprit », mais « soyez, laissez-vous remplir en fait par le Saint-Esprit ». Ne permettez pas qu'il y ait des obstacles à ce que le Seigneur eh bien, puisse vous remplir. Et il peut y avoir des obstacles, hein, comme dans Éphésiens, il est dit « n'attristez pas l'Esprit de Dieu ». Quand on attriste l'Esprit, alors eh bien, l'esprit ne peut pas à ce moment-là nous remplir et être vraiment dans sa plénitude dans notre cœur. Comme il est saint, là où il y a de la désobéissance, du péché, de l'infidélité, pas un désir de vivre pour Dieu, eh bien, il ne peut pas nous remplir. Et péché, ça nous arrivera toujours. Mais on peut faire le choix de demeurer dans le péché, dans l'indépendance, ou bien faire le choix de s'attacher à Dieu, de reconnaître notre péché, de vouloir à chaque fois revenir dans la communion avec le Seigneur. Et puis, une autre chose pour être rempli du Saint-Esprit qui est importante, c'est de se laisser conduire par lui. Et j'aimerais juste citer l'exemple de Jésus quand il dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Et Jésus, en tant qu'homme, il s'est laissé remplir du Saint-Esprit et il s'est laissé conduire. Quand l'Esprit disait « bien, par là », il allait par là. Quand il disait « par là », il allait par là. Quand il disait « tais-toi », il se taisait. Quand, eh bien, il fallait parler, il parlait. Et de la même manière, eh bien, le Seigneur veut qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. Quand on pense à Jésus, il ne faisait rien de sa propre volonté. Mais à chaque fois, c'était la volonté du Père. Rien que la volonté du Père. Que ce que l'Esprit du Père eh bien, lui donnait de faire, de dire, d'être, et d'être là où il voulait qu'il soit. Et plus on sera eh bien, désireux d'être soumis, d'être obéissant au Saint-Esprit, eh bien, plus il va pouvoir prendre de la place et remplir notre cœur. Et certainement, Étienne, il avait ce désir, cette volonté, de, Seigneur, vraiment, on prend toute la place. Alors, eh bien, il était rempli du Saint-Esprit. Et les quelques pages qui nous parlent de lui nous montrent un homme qui n'était que rempli du Saint-Esprit. On ne le voit pas dans la désobéissance ou dans l'infidélité, non. Il était tout le temps rempli du Saint-Esprit. Il avait appris à marcher par l'Esprit et ne s'opposait jamais à lui. On lit encore ça en Actes 6, versets 8 à 10. Regardez, Actes 6, versets 8 à 10. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens, de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et là, on voit cet esprit de force, d'amour, de sagesse, qui lui donnait les choses qu'il fallait dire, quand il fallait les dire, et les dire de la bonne manière. Ça m'a touché cette semaine en lisant Luc, quand le Seigneur dit aux Juifs, ce passage qui concerne encore la tribulation, quand il dit, mais ne cherchez pas à préméditer ce que vous allez dire pour votre défense. Le Seigneur vous donnera un esprit avec une telle sagesse qu'ils ne pourront répondre à ce que vous direz. Et c'est touchant ça. Ça veut dire que quand on est en communion avec le Seigneur, peu importe ce qui nous arrive, le Seigneur peut nous donner les paroles qu'il faut, justes, pertinentes, parfaites, auxquelles on ne peut pas répondre. On peut voir une autre raison qui a fait que Jésus, certainement, eh bien, une raison pour laquelle il s'est levé pour l'accueillir. Acte 7, verset 55 encore. 7, verset 55. Il est dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Étienne avait les regards tournés vers le ciel. C'est une petite pensée, une petite parole ici, hein, mais il le distingue. « Et fixant les regards vers le ciel. » Un détail qui montre l'attitude de son cœur. Quelle était son attitude? Il n'était pas préoccupé par les choses terrestres, mais par les choses célestes. Ce qui comptait pour lui, c'est plaire à Dieu, entretenir sa relation avec le Seigneur et lui être fidèle, mieux le connaître. Et c'est tout ce qu'on peut lire dans ces deux chapitres 6 et 7 des Actes. On va le voir qui témoigne avec zèle aux Juifs. On va le voir donner un récapitulatif de l'histoire biblique d'Abraham à Salomon. Ça veut dire que Étienne connaît la Bible. Étienne lit la Bible. Il est versé dans les Écritures. Il peut, moi, ça m'impressionne à chaque fois, un récapitulatif précis avec des détails, hein, comme ça, de l'histoire. Je me dis, mais vraiment, il lisait l'Ancien Testament, il le connaissait. Et puis, on voit aussi, lorsqu'il va être lapidé avec assurance, il dira, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il est prêt, en fait. Hein, il est prêt. Et puis, il est habitué à s'approcher de Dieu par la prière. Toute son attitude montre que son intérêt, c'était pour le ciel. Vous connaissez ce passage de Colossiens, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et Étienne, on peut dire qu'il en était une illustration vivante. Il était occupé aux choses d'en haut, il s'affectionnait aux choses d'en haut, il privilégiait les choses d'en haut. Et s'il y avait un choix à faire, qu'est-ce que veut le Seigneur? C'est ça le plus important. Et c'est une nécessité aussi pour nous appliquer à regarder au ciel. Sinon, si on ne fait pas l'effort de regarder les choses célestes et de passer du temps ensemble et de lire la Bible et de prier, irrémédiablement, on baisse les yeux et on s'attache aux choses de la terre. C'est un petit peu comme les avions. Vous savez, les avions au décollage, là, au décollage, ils doivent être les pousser à fond, pour que vraiment ils arrivent à décrocher et puis à monter dans le ciel. Et puis une fois qu'ils sont dans les airs, eh bien, ils réduisent la puissance. Et puis là, ça tient. S'ils lâchent la puissance, ça repique. Et puis ils remontent, et ils arrivent à remonter. Mais pour remonter, de nouveau, il faut mettre beaucoup de puissance. C'est un peu comme nous dans la vie chrétienne. Si on a des habitudes et on vit la vie chrétienne, on prie, on lit, on a notre moment avec le Seigneur, on va à l'église de manière habituelle, mais il ne faut pas beaucoup de puissance en quelque sorte. Voilà, on atteint une vitesse de croisière et on marche avec le Seigneur. Mais si on se relâche, alors là, ça devient dur. Parce que de nouveau, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de force hein, pour refixer les yeux vers le ciel. Si on arrête de prier, on perd l'habitude. Puis après, on n'arrive plus à prier. Une minute, ça nous semble long. Alors, on est courte. Alors que si on a pris l'habitude, on a fourni cet effort, après, bien, on le fait d'une manière habituelle. C'est pareil pour la lecture de la Bible ou bien pour l'Église. C'est pour tout. Avoir eh bien, cette vitesse de croisière hein, où il y a un petit effort constant et on reste avec le Seigneur. Psalmiste disait, psaume 119, « Mon âme est attachée à la poussière de la terre. » Attachée, rends-moi la vie selon ta parole. Il implorait la grâce de Dieu pour fixer les yeux vers le ciel parce qu'il sentait bien que son âme était à chaque fois ramenée et notre vieille nature, elle est un peu comme l'attraction terrestre en fait. Elle essaye de nous tirer vers le bas. Mais le Saint-Esprit, lui, il est cette puissance qui nous aide à monter vers les cieux. On peut voir une dernière raison qui a fait qu'il s'est levé pour lui. Le Seigneur s'est levé pour lui. C'est à la fin de chapitre 7 des Actes. Donc on voit Étienne qui subit le martyr pour le Seigneur. Martyr, c'est témoin. Hein? Un témoin. Et simplement parce qu'on est témoin, eh bien, on en subit les conséquences. Et c'est ce qui a fait que ben, ce mot de martyr a changé. Et puis maintenant, un martyr, pour nous, c'est quelqu'un qui subit une persécution, quelque chose de difficile. Mais à l'origine, martyr, c'est simplement martyréos, c'est témoin, être un témoin de Jésus-Christ. Et il a témoigné fidèlement pour Jésus jusqu'à la mort. En remontant le chapitre, on le voit se défendant devant le Sanhédrin. On le voit rempli du Saint-Esprit, parler donc avec les membres de la synagogue. On le voit aussi qui fait de grands prodiges, des miracles parmi le peuple. Mais il faut se souvenir comment il a commencé. Il a commencé en étant élu, choisi, pour servir aux tables. Simplement pour servir aux tables. Étienne était aussi un homme qui était humble. Il ne cherchait pas à être un grand prédicateur, un faiseur de miracles. Il cherchait simplement à plaire au Seigneur. Qu'à plaire au Seigneur. Et si c'était en servant aux tables, il était content, il servait aux tables. Il avait finalement, on peut dire, l'attitude du roi David qui a écrit, psaume 131, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Et quand on prend le roi David, l'attitude de cœur, il avait l'attitude de cœur d'un enfant qui avait appris la soumission, l'humilité. Après les grands cris, les colères, les éclats, comme peuvent le faire un bébé, eh bien le voilà calme, tranquille, sevré, comme un enfant auprès de sa mère, confiant. Et le roi David ne luttait pas avec orgueil et ambition, et on le voit tout au long de sa vie, en tout cas une bonne partie de sa vie, avant qu'il accède vraiment à la royauté, il était paisible, petit à ses propres yeux, dans les bras de son Dieu. Et Étienne, eh ben, il avait cette même attitude, cette même humilité, cette même simplicité. Il ne cherchait pas des choses qui étaient trop grandes, trop élevées pour lui. Ce qui comptait pour lui, c'était faire la volonté de Dieu. Et peu importe l'éclat, peu importe si on me verra, faire la volonté de Dieu. Alors, ben, il distribuait la nourriture aux veuves. C'était ça, en fait. Hein. Marc 10, 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et Étienne n'a fait que prendre exemple, finalement, sur son Seigneur. Quelqu'un a dit cette phrase, une belle phrase, il a dit « Servir et mourir, c'est tout ce que Jésus-Christ est venu faire dans le monde. » Et écoutez ça, « Il n'y a point d'esclave qui serve son maître comme ce divin maître a servi ses esclaves. » Il n'y a point d'esclave qui serve son maître comme ce divin maître a servi ses esclaves. C'est beau, hein? Jésus est un divin maître qui est venu nous servir, nous, ses esclaves. Et parce qu'il a pris une condition basse, petite, alors Dieu l'a souverainement élevé ensuite. Et donc, on peut dire qu'Étienne avait compris la vraie grandeur. Il voulait simplement servir ses frères et sœurs. Si c'était, eh bien, voilà, il manque du pain, hop, il allait amener du pain à table. Besoin d'eau, eh bien, il donnait de l'eau. Le plus grand, nous dit Jésus, c'est celui qui sert. Alors Dieu a honoré son attitude et il s'est levé carrément pour l'accueillir. Et donc, par sa vie consacrée, Étienne est devenu un modèle pour nous. Pourtant, c'était un homme comme nous, avec des faiblesses, avec des chutes. Mais son cœur a fait le choix de Dieu, le choix de vraiment ne rien faire qui soit un obstacle au Saint-Esprit, le choix de faire ce que l'Esprit lui disait, être obéissant, se laisser remplir par lui, et puis avoir un cœur humble, un cœur de serviteur.